HRD Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Lefèvre Dalloz.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HRD Radio et bienvenue aux 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, toujours plus nombreux chaque semaine. Merci à tous et bien sûr, vous avez nos réseaux sociaux pour vos réactions. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Juliette Sterwen, Philippe Martinez, président d'Adeco France et Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Messieurs, bonjour.
Bonjour Richard. Richard.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pascal Guillemin, qui est directeur des ressources humaines de Cegid. Bonjour Pascal.
Bonjour Richard.
Alors, vous êtes né dans le pays de Gex, frontière de la Suisse. Vous vous orientez vers les personnes et vous faites du droit social. Vous aimez les gens, quoi.
Tout à fait.
On peut dire ça ?
Tout à fait.
Le fait d'être du terroir, c'est important pour vous ?
Je pense qu'on a tous notre propre terroir, on est tous des paysans, comme disaient certains sociologues, et c'est important de savoir d'où on vient pour aller quelque part.
Ça, je suis assez d'accord avec vous. Alors, après une première expérience, vous êtes recruté par l'associé de Jean-Michel Aulas chez Cegid, c'est ça ?
Tout à fait.
Vous l'avez rencontré, le Jean-Michel Aulas,
oui,
national et international ?
Tout à fait.
Belle boîte, en tout cas.
Très belle société.
C'est quoi ? Dites-nous un peu, racontez-nous.
Cegid.
Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde ne connaît pas forcément.
Alors, Cegid, c'est à ce jour une société internationale de 4600 collaborateurs présents dans 22 pays, qui a été une start-up, une licorne, et puis maintenant qui est une ETI, qui est une très belle ETI, et qui à ce jour est un éditeur spécialisé dans les solutions SaaS Cloud, sur des secteurs très spécialisés comme le retail, la finance, la paye, la partie RH ou le RP.
Quand vous y êtes arrivé, ce n'était pas le Cegid d'aujourd'hui.
C'était très 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 différent, c'est un conglomérat d'activités très diverses qui allait de la partie formation en passant par un coup du courtage en assurance, en passant par la maintenance matérielle, avec de l'intérim même. On était compétiteur d'Adeco, alors pour la blague, mais c'était un vrai conglomérat.
Oui, on ne vous en veut pas puisqu'il est là.
Voilà.
Et
on ne fait plus d'intérim.
Combien de salariés aujourd'hui ?
4600.
4600, c'est pas mal, chiffre d'affaires.
Chiffre d'affaires, on va bientôt publier, donc c'est de l'ordre de 800 millions.
Bon, eh ben on va commencer par Philippe.
On se connaît également aussi un peu, puisque je crois qu'on vous aide avec Pontoon pour recruter. Et en fait, la question va donc tenir autour de quels sont vos enjeux, parce que on imagine une entreprise finalement technologique, moderne, et donc nous au quotidien, on est au chevet d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Donc racontez-nous, vous, quand même, vous avez une entreprise internationale dans un domaine, disons IT tech, avec probablement l'intelligence artificielle qui arrive et qui va faire encore un peu d'excitement, un peu de risque aussi. Alors, comment... quelle est votre stratégie pour attirer les jeunes, les moins jeunes, peut-être aussi les femmes, puisque je vais vous dire que potentiellement l'aspect parité était encore un challenge dans votre entreprise.
Alors, on est dans un secteur, en fait, on a toujours connu la nécessité d'être attractif. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais connu, moi, ces 25 dernières années, des années où il était simple de trouver des compétences. On est toujours avec un train de retard, avec des technologies qui vont toujours plus vite que le marché du travail. Hein. On a de multiples exemples. Et donc, notre enjeu, c'est en permanence d'être attractif et de donner de la perspective à nos collaborateurs, surtout à ceux qui sont dans l'organisation, parce que c'est bien d'attirer des gens, mais c'est encore mieux de les garder et de les inscrire dans la durée. Donc, on a cette particularité-là. On travaille beaucoup sur ce sujet avec un phénomène d'accélération en ce moment. Vous avez cité la partie de l'IA. Ça va être une vraie opportunité. Alors, nous, on le perçoit comme exclusivement une opportunité. Ce n'est pas un risque. C'est une vraie opportunité. Il faut savoir la saisir et il faut surtout savoir accompagner ses collaborateurs pour la saisir. Parce qu'on est dans une activité de savoir. Hein. On n'a pas de machine, on n'a pas, entre parenthèses, d'automatisme. On a avant tout des femmes et des hommes qui conçoivent des produits. Et donc, nos enjeux à ce jour tournent sur l'attractivité parce que c'est d'aller chercher des nouveaux profils qui n'ont pas forcément la perception qu'ils peuvent faire une carrière au sein d'un éditeur de logiciels. Parce que si vous faites un radio trottoir, un éditeur de logiciels, ça ne parle pas à grand monde. Alors qu'il y a des métiers fantastiques à l'intérieur. Donc, nos enjeux, c'est de mieux faire connaître nos métiers. Le deuxième sujet, c'est de mieux piloter nos compétences et nos technologies parce que l'IA va accélérer et va augmenter de manière très importante le sujet des compétences. Et donc, c'est la prospective sur ces compétences qui demeure importante. Sur les femmes, on est un petit peu atypique parce que dans le secteur de la tech, grosso modo, c'est plutôt 70-30. Nous, on a toujours été atypique. J'ai même connu À une époque, on était 45% de femmes dans l'organisation, on est encore 40%. On travaille beaucoup sur la partie leadership des femmes. On n'en a pas assez au niveau de notre exco. On y travaille, on va dire, de manière quasiment permanente. Et puis, on est aussi dans un dispositif d'accompagnement des écoles parce que ça commence à la base. Et il y a de nombreuses jeunes filles qui se désintéressent des métiers scientifiques ou techniques. Et ça, c'est une grosse partie du problème à ce jour.
Marc.
Alors Pascal, parmi les activités de Cegid, il y a bien sûr les outils, vous les avez cités, et en particulier les SIRH. Les SIRH, ils sont là pour offrir la meilleure expérience collaborateur sur le plan des RH, évidemment. Alors, je me disais que forcément, Cegid devait être lui-même au top de l'expérience collaborateur digitale. Je n'ai pas envie de penser que vous êtes un cordonnier mal chaussé.
Non.
Alors, est-ce que vous pourriez nous citer deux ou trois particularités de l'expérience collaborateur chez Cegid dont vous seriez particulièrement fier ou qui apprécieraient les collaborateurs? Et peut-être que dans ces expériences-là, il y a un peu d'IA, effectivement, si je reprends le refrain de mon camarade.
Alors, l'IA est déjà présente dans beaucoup de nos produits. Ce qui est fait un petit peu fashion en ce moment, c'est Generative AI, donc c'est un petit peu différent. Donc, on a de l'IA dans tous nos produits. Sur la partie expérience utilisateur, expérience collaborateur, nous, on a beaucoup digitalisé pour faciliter la vie du collaborateur. Donc, la partie papier a quasiment disparu. Donc, c'est très basique, mais pour toute la partie des flux vis-à-vis des collaborateurs, on a digitalisé 99,9% des sujets. Il y a encore des petits sujets qui ne sont pas encore traités. Et puis surtout, c'est dans la partie utilisation des outils, dans le développement des personnes. Donc, on a beaucoup travaillé sur la partie digitalisation, de la partie formation de nos collaborateurs. Quand on est dans 22 pays avec du travail hybride sur à peu près 60 sites dans le monde, forcément, vous devez rendre accessible de manière beaucoup plus simple la partie de la formation. Et donc, on fait à ce jour 70% de notre investissement en formation de manière digitale. Alors, ce n'est pas que du e-learning, c'est aussi du tutoré, c'est aussi du mentoré. Mais pour ça, il faut avoir des outils. Il faut avoir un catalogue à disposition. Et donc, on travaille beaucoup sur la partie autonomie de nos collaborateurs et la partie action de nos propres collaborateurs dans leur développement. Et ça passe par des outils.
Vous êtes
nos propres outils.
Un laboratoire de vos propres outils.
Alors, il fut un temps, j'étais le bêta-testeur même. Donc, depuis, j'ai demandé à ce qu'on prenne un peu de distance avec ça, parce que sur la taille, ça peut avoir quelques inconvénients. Mais bien entendu, on participe beaucoup à la partie de nos outils et on utilise beaucoup nos outils.
Jérôme.
Cegid a lancé le Cegid Gender Network en 2022, avec 300 collaborateurs impliqués dans 15 groupes de travail pour favoriser la diversité et l'inclusion en entreprise. Je souhaiterais que vous puissiez nous parler de la politique de diversité et d'inclusion au sein de Cegid, s'il vous plaît.
Donc, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la maison. Ça a toujours fait partie prenante de l'option, on va dire, collective de l'organisation. On a trois axes principaux que sont la partie du handicap. Donc, sur la partie collaborateur en situation de handicap, on est à 5,8% cette année. Parce que depuis 14 ans, on a des accords agréés. Mais au-delà des accords agréés, on a surtout une démarche qui est relayée par nos propres collaborateurs. Donc ça, c'est pour la partie handicap. On a un sujet sur la partie égalité femmes-hommes. Donc on a un accord d'entreprise depuis quasiment 12 ans maintenant, qui prend en compte la partie de la parentalité, le sujet de la partie de l'égalité, avec des actions sur la partie rémunération, puisqu'on est aussi dans une phase où on acquiert un certain nombre d'entreprises. On fait beaucoup de croissance externe. Et donc, ça fait partie des sujets de réalignement en matière de rémunération qu'on a systématiquement toutes les années et que, à ce jour, on a plutôt de très bons résultats là-dessus. Et puis, le troisième point, c'est la partie de la diversité, au sens de la partie déconstruire les représentations qu'on peut tous avoir, que ce soit des sujets de couleur, que ce soit des sujets de taille, que tout ce qui peut rentrer dans un biais cognitif de décision sur la partie recrutement, sur la partie promotion interne. Et là aussi, on travaille de manière globale avec des relais locaux, avec des collaborateurs qui s'engagent là-dedans et qui sont promoteurs de la sensibilisation de nos collaborateurs. On a pris ce choix-là, qui n'est pas le plus simple, parce qu'il faut...
Ce sont des groupes de travail, du coup.
Ce sont des groupes de travail, mais aussi des ambassadeurs. Donc, que ce soit sur la partie handicap, sur la partie femmes-hommes, égalité, ou que ce soit sur la partie insertion, qui ont pour mission d'être la parole en interne, parce qu'on est toujours mieux écouté par ses pairs que par quelqu'un qui viendrait, on va dire, parce qu'il a une mission particulière pour le faire. Ça, c'est notre conviction.
Merci.
Bon, Pascal, en préparant cette émission, vous m'avez dit des mots magiques, pâté-croûte. Je crois que vous faites vous-même le pâté-croûte. Vous faites même la pâte, vous faites tout. Je veux tout savoir et on prend des notes.
Vous avez combien de temps?
Ah ben on a 3 heures là, parce que là, il faut.
Ah, c'est un peu plus qu'il faut qu'il n'en faut pour faire un très bon pâté croûte.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la pâte déjà?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la pâte? Alors, il faut avoir une farine qui est de T55, oui, pour les spécialistes, hein, oui. Puisqu'il faut qu'elle ait une certaine tenue dans la cuisson. Il faut du poivre blanc, parce que il faut que sinon vous mangez un pâté croûte qui est fade. Oui, donc, oui. Je peux vous descendre toute
allez-y,
la recette.
Allez-y,
si vous
mais
voulez.
C'est ça le secret.
Donc, moi, je fais du pâté croûte au riz de veau et au foie gras.
Ah, bien sûr.
Voilà, donc il faut faire le riz de veau. Alors, pour les connaisseurs, il y a un peu de travail pour faire le riz de veau, parce qu'il ne faut pas l'acheter tout fait, parce que sinon, vous n'avez pas le même goût. Ouais. Donc, il faut défaire le riz de veau. Donc, il faut le faire déjà bouillir légèrement.
Et où
pas
ça
trop.
Se trouve maintenant? Il faut trouver une
charcuterie. Il faut avoir un très bon boucher charcutier. Donc, vous allez dans certains endroits que vous connaissez bien. Et étant en partie à la campagne, j'ai quelques adresses qui me permettent d'avoir des riz de veau qui sont, on va dire, frais, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 24 heures. Un foie gras pareil qui est plutôt, on va dire, qui vient du sud-ouest pour le coup, pas tout à fait de la même région. Et donc, ben, il faut préparer le riz de veau, il faut préparer son foie gras, il faut avoir un foie gras suffisamment ferme. J'y mets quelques champignons noirs aussi pour le sujet. Et derrière, ben, faut faire le pâté croûte, donc faire sa pâte. Il faut être attentif à la bonne jointure, parce qu'un pâté croûte, ça peut fuir.
Donc, on glisse tout dedans.
Voilà, on glisse tout dedans. Et puis, on fait ses petites cheminées et puis on le fait cuire pour une heure et demie, en fonction de la taille de votre pâté croûte.
C'est formidable, on a pris des notes, évidemment. Voilà. Pour terminer, votre livre de chevet, L'art de la guerre, Sun Tzu, on vous sent très zen hein, quand même.
C'est pas le fond de mon caractère, je suis plutôt quelqu'un qui va droit au but, mais on va dire avec on va dire les années et l'expérience, on essaye de prendre du recul. Et puis dans la fonction RH, il faut savoir on va dire prendre des décisions rapides, mais aussi avoir une vision d'ensemble de l'environnement dans lequel vous êtes.
C'est bien résumé, merci Pascal, vous êtes formidable. Merci à vous également, tous les trois, vous êtes formidables. Marc, Jérôme et Philippe, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGSRH et Lefèvre d'Alloz.